Chapitre 15. Alors qu'il remontait le tunnel, Richard entendit en plus des cris une sorte de grognement animal qui ne semblait pas appartenir vraiment au monde des vivants, semblant menacer toute créature qui n'appartenait pas au royaume des morts. Ce rugissement se répercutait lui aussi dans tous les tunnels. Bien qu'il ignorât tout de la configuration du réseau des corridors creusés dans la roche, impossible de dire où ils menaient ni comment ils s'interconnectaient, le sourcier savait s'orienter par rapport à un son, et cette aptitude lui suffirait pour l'instant. Des cris pareils, il le savait, sortaient uniquement de la gorge d'êtres mortellement terrorisés. Certains pouvaient être aussi des hurlements d'agonie. Dans sa vie, il en avait entendu plus souvent qu'à son tour. La paix revenue, il avait espéré, en vain semblait-il, ne plus jamais revivre ses expériences. Dans le tunnel, il croisa des gens qui couraient en sens inverse, fuyant le danger. À présent, d'autres cris retentissaient, ceux des attaquants, bestiaux à vous en glacer jusqu'à la moelle des os. La plupart des fugitifs hurlaient aussi, mais parce qu'ils étaient paniqués. Rien à voir avec ce que produit la gorge d'un être humain qui comprend que sa dernière heure a sonné. Très vite, Richard comprit qu'il s'était perdu dans le labyrinthe de tunnels. Tant qu'il pouvait se repérer à l'oreille, ce n'était pas si grave que ça, puisqu'il savait où il allait. Sa douleur et ses malaises oubliés pour le moment, ou plutôt balayés par le raz-de-marée furieux de l'épée, il n'avait plus qu'un objectif, secourir les malheureux qui tombaient sous les coups de tueurs ivres de sang. Sous l'influence de son arme, Richard éprouvait exactement la même ivresse que ses futurs adversaires. Il voulait les vider de leur fluide vital à n'importe quel prix. Le voyant courir l'épée à la main, plusieurs fuyards se plaquèrent contre la paroi pour le laisser passer. D'autres n'eurent pas ce réflexe et il dut les écarter sans trop de ménagement. Des femmes couraient, poussant devant elles des enfants. Concentrés sur leurs petits protégés, la plupart ne virent même pas le sourcier. Quelques hommes s'efforçaient d'aider des vieillards. En plusieurs occasions, trop absorbés par leurs tâches, ils manquèrent s'embrocher sur l'épée de Richard, qui dut faire un écart pour les éviter. Progresser à contre-courant de cette marée humaine se révéla bien plus difficile qu'il aurait cru. Avant de voir la menace, il sentit une odeur qui n'appartenait pas au village de Streuza. La puanteur typique de la chair en décomposition, si répugnante qu'on était obligé de bloquer sa respiration pour ne pas vomir. Malgré son dégoût, Richard se força à respirer. Soudain, il déboula d'un tunnel pour se retrouver dans une grande zone dégagée, la caverne qui donnait accès au village, celle qu'il avait traversée en arrivant. Dehors, vit-il en plissant les yeux, le crachin continuait. En face d'un feu qui brûlait dans une fosse spéciale, quelques lampes allumées pendaient à des crochets fixés dans la paroi. Grâce à cette chiche lumière, Richard vit un petit groupe de villageois qui tentaient d'échapper aux griffes de deux colosses. La démarche un peu maladroite, ces brutes semblaient chargées au hasard. À voir leurs vêtements mouillés, ces agresseurs venaient de l'extérieur. Quelques villageois se pressaient contre la paroi dans les ombres, avec l'espoir de ne pas se faire repérer. D'autres avançaient lentement vers des entrées de tunnels, avec l'idée de fuir. À ce qu'ils pensaient être la distance de sécurité, des types plus courageux agitaient les bras ou lançaient des pierres sur les deux attaquants. Au centre de la grotte, tels des ours dans une cage, les colosses hurlaient leur haine à l'intention des villageois. L'odeur de mort et de pourriture qui se dégageait d'eux prit Richard à la gorge. Sortant des tunnels, d'autres villageois bombardaient eux aussi de pierres les deux tueurs. Même si la plupart des projectiles rataient leur cible, cette manœuvre de diversion fonctionnait. Tirant parti de la confusion de ses adversaires, un villageois osa approcher avant de lancer une grosse pierre sur l'un des intrus. La pierre percuta l'arrière du crâne de la brute et rebondit. Au son, Richard aurait juré que l'impact était suffisant pour faire éclater comme une noix la tête du tueur. Pourtant, celui-ci ne vacilla même pas, comme s'il n'était pas du tout affecté par l'attaque. Son compagnon rugit et bondit pour barrer le passage à trois villageois qui tentaient de s'engouffrer dans un tunnel latéral. Mais à deux, les colosses ne pouvaient pas tout contrôler. Saisissant l'occasion au vol, d'autres villageois se ruèrent vers un tunnel différent et y disparurent avant que les tueurs aient pu réagir. Prêts à risquer le tout pour le tout, des hommes et des femmes sortirent de la grotte pour dévaler la corniche plus dangereuse que jamais avec cette pluie. Beaucoup de gens n'avaient pas réussi à s'enfuir. Au pied de la paroi, Richard vit plusieurs cadavres désarticulés. Des victimes tuées puis jetées à l'écart par les deux agresseurs. Sous ces corps, des flaques de sang continuaient à s'élargir. Alors que Richard bondissait sur les tueurs, l'un d'eux saisit une femme plaquée contre la paroi. La tenant d'une main, il frappa de l'autre, un seul coup suffisant à ouvrir en deux l'abdomen de la malheureuse. Soudain pétrifiée, elle écarquilla les yeux comme si elle ne croyait pas à ce qui venait de lui arriver. Quand on recevait un coup pareil, la douleur ne se manifestait pas tout de suite. Comprenant enfin qu'elle était perdue, la pauvre femme hurla à la mort. Son meurtrier se pencha et lui saisit le poignet. À la vitesse de l'éclair, son complice bondit, referma son poing sur une cheville de la moribonde et aida l'autre tueur à la soulever du sol puis à la propulser contre la paroi pour lui fracasser le crâne. Avant que Richard ait atteint les deux colosses, une dizaine de chats jaillirent des ombres et bondirent sur le type qui tenait toujours la cheville de sa proie. L'homme chassa un premier chat de son épaule. Un autre en profita pour lui griffer le visage, mais il ne broncha pas, agitant simplement une main pour se débarrasser du félin, comme une personne normale aurait pu faire avec un moustique. L'autre tueur tira sur le bras de la femme et finit par le lui arracher. Utilisant la main qui lui restait, la moribonde essaya de ramper pour échapper à son destin. Hélas, les dés étaient jetés. L'attirant par la cheville, l'autre intrus l'empêcha de fuir. Par bonheur, elle perdit connaissance. Son ultime moyen d'échapper à l'horreur. Rugissant de fureur, Richard abattit son épée. La lame zébra l'air, puis trancha net le bras du tueur qui brandissait comme un trophée le membre arraché de sa victime. Les deux bras, désormais détachés de leur corps, tombèrent sur le sol avec un bruit sourd. Sans se soucier de Richard, le colosse qui serrait la cheville de la femme la fit osciller dans les airs puis la propulsa de toutes ses forces vers la gueule de la caverne. Dans une gerbe de sang et de viscères, la villageoise bascula dans le vide, plongeant vers les rochers qui se dressaient au pied de la falaise. Richard vit que la pointe d'une épée dépassait d'entre les omoplates du tueur. Comme si de rien n'était, celui-ci se retourna lentement vers le sourcier, prêt à l'affronter. Avec une épée brisée dans le torse, cet homme se comportait comme s'il était en train de faire une promenade de santé. Pour la première fois, Richard put observer pour de bon un des deux agresseurs. En plus de l'épée, celui-là avait trois couteaux plantés jusqu'à la garde dans le torse, et l'autre moitié de l'épée brisée dépassait de son sternum. Richard reconnut immédiatement les couteaux, l'arme de corps à corps favorite des hommes de la première phalange. Sur les cinq plaies qu'arborait le tueur, quatre au moins auraient dû être mortelles. Levant les yeux sur le visage du colosse, Richard mesura enfin l'horreur de la situation. Désormais, il ne s'étonnerait plus que l'air empeste la mort.